Les longs formats et les bords. Chers auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Radio et les bords. Vous écoutez Les longs formats et mon invité aujourd'hui s'appelle Sébastien Barrier. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Barrier, vous êtes comédien, performeur, poète, conteur, dit-on, clown, a-t-on dit un temps? Vous dites quoi?
Moi, je dis tout ça. J'ajoute parfois camelot, bonimenteur. Moi, ça suffit. Mais je dis tout ça, j'ai du mal à résumer en un mot ma pratique, en fait. Donc, cette multitude de mots me convient bien, mais c'est vrai de tellement de personnes, qu'elles soient sur les scènes de théâtre ou non, on est difficilement réductible à un mot et une fonction.
Et tant mieux.
Et tant mieux, bien sûr.
On vous a connu d'abord en Renan Tablantec, un personnage que vous avez laissé derrière, dont vous êtes un petit peu débarrassé quand vous avez rencontré le vin naturel, c'est-à-dire le vin sans sulfate, sans soufre, et c'est-à-dire donc une ivresse aussi sans gueule de bois le lendemain matin. Ça donnera un spectacle en 2013, Savoir qui nous buvons, un monologue...
Savoir enfin qui nous buvons.
Savoir enfin qui nous buvons. Un monologue avec une guitare, votre chat, un diaporama, des dégustations, sinon c'est pas drôle. Et puis bien sûr, sept vignerons, leurs mots, les vôtres et leur histoire. Une écriture portée par une série d'enquêtes menées auprès d'eux. Aujourd'hui, ça donne un livre du même titre, Savoir enfin qui nous buvons, paru chez Actes Sud, que vous présentez d'ailleurs chez Garin à Chambéry. Et vous êtes aujourd'hui sur scène pour Chunky Charcoal, qui porte le nom des craies que votre compère Benoît Bonne Maison Fit utilise sur un grand panneau, une grande feuille blanche de 9 mètres sur 3, sur laquelle il note des liens, des listes, des schémas, des classements, des digressions. Et le fil rouge de tout ça, eh bien, c'est la perte. Avec vous, sur scène, il y a aussi Nicolas Lafourest aux manettes de la mélancolie et de sa guitare. Et vous, debout au micro. Pourquoi la perte?
Mais en fait, c'est pas vraiment un choix, c'est un... Disons que le thème du spectacle nous est apparu à force de chercher autour du spectacle, mais sans qu'on sache vraiment ce après quoi on courait. On s'est retrouvé avec Benoît et Nicolas à l'occasion d'une soirée performance dans un lieu en périphérie toulousaine, un lieu qui s'appelle l'Usine, un lieu dédié aux arts de la rue où j'ai quelques habitudes, où j'ai vécu d'ailleurs. Et puis il y avait une soirée dédiée à la performance et ils m'ont dit bah, « Sébastien, tu viens, tu fais une carte blanche, enfin, on te file une carte blanche, tu fais ce que tu veux ». Donc j'ai invité Benoît. Parce qu'avec Benoît, ce dessinateur donc, que vous avez évoqué, j'avais l'habitude depuis quelques années de chercher avec lui les liens entre la parole et puis le dessin. Comment notamment on pourrait représenter une pensée en train d'éclore en direct par le dessin. Comment on pourrait matérialiser graphiquement cette pensée. Nos pensées, elles sont foutraques, elles sont désorganisées, elles sont profuses. Ça fait des rhizomes, des réticules, des racines et des embranchements complexes. Toutes nos pensées, évidemment, sont complexes. Et puis, on passe du coq à l'âne, on digresse. Notre rythme de pensée ne nous interdit aucun saut de côté, aucune digression. Donc, on avait, avec Benoît, l'habitude de cherchouiller. Je dis cherchouiller parce qu'on ne peut pas parler d'une véritable recherche. On avait plusieurs occasions dans la rue, au cours de manifestations, pour des amis, pour d'autres soirées. On avait des occasions d'essayer cela. Et puis, pour cette soirée-là, j'ai proposé à Benoît de me rejoindre. Et puis Benoît m'a dit bon, on devrait inviter Nicolas Lafourest, dont j'avais presque oublié l'existence, car à l'époque déjà j'avais quitté Toulouse et je savais vaguement que Nicolas était un guitariste du monde underground, un peu de jazz, de musique expérimentale et improvisée toulousaine. Et donc Benoît nous a mis Nicolas dans les pattes et puis on s'est retrouvé à chercher pendant 4 jours dans un petit lieu ce qu'on pourrait bien faire pour cette soirée. Puis on a pondu 3 petites pièces de 20 minutes qui n'ont plus grand chose à voir avec ce qu'on montre en ce moment à Malraux. Si ce n'est que Nicolas joue effectivement de la guitare, que Benoît saisit des mots issus de ma parole au vol et que moi, effectivement, je parle et j'assure ce lien avec le public comme un narrateur, comme un conteur. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on a évoqué au début. Bref, on a mis au monde ces 3 petites pièces dont on a assez vite compris qu'elles ne pouvaient pas avoir d'autres existences qu'au moment même où elles avaient existé. Par contre, ce qu'on a senti aussi très clairement, c'est qu'on s'était fait du bien et qu'on avait envie de rester ensemble. Donc de là, un peu en urgence, j'ai réuni rapidement quelques moyens de production, comme on dit, j'ai appelé très excité des partenaires, des directeurs et directrices de théâtre, pour leur dire, voilà, quelque chose est en train de se passer, je ne sais pas quoi, mais donnez-moi un peu d'argent, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer à se voir et continuer à répéter en se rémunérant ces temps de travail, parce que Benoît et Nicolas, notamment, ont des familles et qu'ils ne peuvent pas bosser gratuitement. Et du coup, on s'est revus, sans toujours savoir ce après quoi on courait, et puis on a travaillé pendant 1 an et demi. On a essayé d'autres choses, d'autres musiques, d'autres textes. On a essayé de faire cohabiter la musique de Nicolas, qui est parfois un peu mélancolique, contemplative, très narrative, très, très intérieure, très lente parfois, et qui, selon moi, aurait du mal à s'accorder avec mes prises de parole très adressées, très directes, très drôles. Et puis en fait, à force de frotter ces pratiques les unes aux autres, on s'est rendu compte que non seulement elles ne se contredisaient pas, mais qu'en plus elles s'apportaient quelque chose. Et puis, à force de travailler, à force de chercher, à force de se perdre en cherchant, on s'est rendu compte que finalement, c'était ce thème de la perte qui revenait dans presque toutes mes prises de parole. C'est même pas moi qui l'ai compris, c'est une amie, Chloé. J'aime bien raconter ça, parce que c'est important. Chloé, c'est une amie qui fait de la régie, mais qui est difficilement réductible, elle aussi, à cette fonction de régisseuse, puisqu'elle fait de la trompette, elle écrit, elle fait des films, elle fait des arts martiaux, elle fait beaucoup de choses, Chloé. Et j'avais demandé de venir avec nous à Calais, dans un lieu qui est un théâtre qui s'appelle le Chanel, la scène nationale de Calais, pour non pas faire de la régie, parce qu'on n'a pas besoin d'elle, mais juste pour qu'elle soit là. Je voulais qu'elle soit là, pour qu'elle soit avec nous, sans trop savoir pourquoi. Et puis, un soir que nous avions répété, complètement, on a fait une répète un soir où tout a foutu le camp. On pensait tenir un petit début de récit, puis un soir on a tout perdu. Donc, je le raconte sur scène, mais c'est vrai que ce soir-là, alors que la veille on avait fait une répétition en public et que tout s'était bien passé, même si aucun thème encore ne s'était vraiment dégagé, ce jour-là on a tout perdu, c'est-à-dire qu'on a perdu l'humour, le sens, le fil, le contact avec les gens, le récit, on a perdu presque nos amitiés aussi, parce que c'est un risque qu'on court à travailler ensemble, de mettre à mal nos amitiés. Et puis en fin de soirée, on était là à boire mollement quelques verres pour essayer de noyer notre chagrin, le mien surtout, puisque je me disais, j'ai invité mes amis à Calais, j'ai demandé de l'argent à des directeurs de théâtre, j'ai embarqué du monde dans cette histoire et je suis là comme un con à pas savoir de quoi j'ai envie de parler. Or pour moi, c'est quelque chose qui me taraude quand même d'essayer de savoir ce qu'on veut raconter sur scène, surtout à un moment où, alors, je sais pas comment le dire, mais où il y a une espèce d'urgence quand même à réagir. Là, au moment où on parle, il y a une manifestation au centre-ville de Chambéry. On n'y est pas parce qu'on est là, on fait autre chose. Mais ça faisait un moment que je me disais, oulala, il faut que je fasse attention quand même à quand je suis sur scène, à pas complètement me déconnecter de la vraie vie, puis essayer d'apporter ma petite graine à cette réflexion et à cette tentative de non pas de sauver le monde, parce que s'il y a bien quelque chose qui ne permettra pas de sauver le monde, c'est bien le théâtre. Mais au moins, de pas être complètement inutile, donc de me sentir emmené, ça fait des longues réponses, mais de me sentir emmené mes amis dans un théâtre pour répéter sans savoir pourquoi, ça me déprimait profondément. Et c'est Chloé qui m'a dit, puisque chaque soir Benoît prenait des notes sur cette grande page blanche que vous avez évoquée, ça permettait quand même de pouvoir en fin de soirée se retourner, d'avoir une trace assez claire quand même de ce qui avait été évoqué dans cette tentative-là. Et c'est Chloé qui m'a dit, mais regarde Sébastien, tu ne parles que de perte et de perdition. Et puis là elle m'a dit, regarde le panneau, et je me suis retourné, effectivement j'ai vu que ce mot perdre et ce mot perdition et ce mot perte, ces trois mots-là revenaient plusieurs fois sur le panneau du soir, sur le témoin de la tentative du soir. Et une fois que Chloé m'a eu dit ça, en fait, c'est comme si elle avait appuyé sur un petit bouton dans mon esprit qui a fait que des centaines d'idées un peu éparses, de sentiments épars qui flottaient dans ma tête, eh bien, se sont reliés entre eux et entre elles. Et puis de là, ça a été assez facile ensuite d'amener de l'eau à ce moulin de la perte. Et puis je me suis rendu compte, pour finir de vous répondre, que c'était un thème qui me travaillait, peut-être parce que j'abordais la quarantaine, parce que je perds mes cheveux, mes dents, que je commence à perdre mes amis, parce que je perds plein d'objets que j'essaye d'aimer, que j'aime et que je perds quand même. Et que je me suis dit, voilà, c'était un thème qui me travaillait, qui me taraudait, qui allait aussi assez bien avec Nicolas et Benoît, parce que Nicolas et Benoît sont très différents, bien sûr, nous sommes tous les trois très différents, mais Nicolas promène cette mélancolie qu'on retrouve dans sa musique, et Benoît est quelqu'un de très drôle, c'est un grand causeur, etc. Mais c'est Benoît a 5 enfants aussi, quand on a 5 enfants, on ne peut pas être complètement léger. Et en fait, cette espèce d'attention à la perte, de mélancolie, en fait, on l'a partagée de manière très différente, et ça n'est pas que parce que la perte me taraudait que c'est arrivé sur le plateau, même si dans ce spectacle, les choses partent de moi, puisque c'est moi qui commence à parler et que l'écrit, même si après il précède la parole, s'il la transforme, s'il la tronque, s'il l'augmente, etc. Et la musique également. Et tout ça vient après la parole. Donc c'est un thème qui nous allait bien. Et voilà pourquoi nous parlons de la perte aujourd'hui.
I know that you were shopping on me, just around the corner. And that you are not dressed for a long journey. I know you are. I know you are away and back in just a moment. I know you are. But still I start to wonder, shouldn't I have warned you for what lies ahead around that corner? What lies ahead around that corner? What lies ahead around its corner? Around that corner.
Est-ce que vous savez comment vous êtes tombé amoureux des mots?
Il y a un environnement familial qui, bien sûr, me prédestine à beaucoup de choses. Mon père était éducateur spécialisé, ma mère travaillait dans le monde hospitalier, mes parents sont de grands causeurs, mes parents parlent beaucoup et bien. Mes parents aussi sont de grands écoutants. C'est-à-dire que dans ma famille, il y avait une tradition qui existe encore d'ailleurs, pour mes parents en tout cas, d'accueillir des gens qui vont mal autour d'eux pour les écouter. Donc la parole a toujours eu une place prépondérante dans ma famille. En ce qu'elle peut soulager, soigner, mais en ce qu'aussi le fait d'écouter la parole des autres contribue éventuellement à les apaiser, à leur faire du bien. Moi, mes parents étaient des grands lecteurs. Et puis après, alors, dans mon chemin personnel, une fois qu'ils m'ont eu transmis cet amour des mots, mais après, moi, j'ai eu à me battre avec ma propre parole. Il se trouve que quand j'étais adolescent, j'ai pas été diagnostiqué officiellement bègue, mais j'avais beaucoup de mal à me faire comprendre parce que j'étais toujours très, très pressé de parler. J'avais une espèce d'urgence de dire qui fait que ça arrive encore d'ailleurs aujourd'hui. Qui fait qu'à la moindre émotion, au moindre empressement, les mots forment des tas plutôt que des phrases. Bon, moi, j'ai eu, mais c'est quelque chose d'assez commun, je pense, à l'adolescence, d'avoir à trouver sa langue, à se battre avec cette langue. Et puis, j'ai toujours eu un besoin d'amour insatiable, mais ça, c'est encore, je pense, un point commun, quelque chose qu'on partage tous, peut-être moi encore un peu plus. Donc la parole m'a permis de séduire, de faire en sorte qu'on me remarque, qu'on fasse attention à moi. J'ai besoin qu'on fasse attention à moi. Donc voilà, j'ai peut-être développé cette parole pour toutes ces raisons-là. Et puis aussi, j'ai compris récemment, mais j'avais dans mon quartier quelques grands, quand moi j'avais 14 ans, qui en avaient 17 et qui étaient vraiment des sales cons, des vrais sales cons. Et je ne pouvais pas physiquement leur démonter la gueule à coups de pied parce que je ne faisais pas d'arts martiaux. Et j'étais pas du tout sûr de moi au niveau de la bagarre. Et du coup, c'est vraiment par la parole que j'ai réussi à m'extraire de leurs griffes. Alors c'était pas des mauvais traitements, mais c'est des humiliations qu'on s'inflige quand on est adolescent. Que des sales grands cons peuvent infliger à des gens plus petits et plus fragiles qu'eux. Et j'ai dû assez vite me protéger de ces railleries-là, notamment en développant la parole comme un espèce de petit sport de combat. Peut-être ça a aussi contribué à aiguiser ma langue. Mais après, voilà, puis j'ai toujours aimé prendre la parole, être drôle. Être drôle, c'est une façon de se faire remarquer, de se faire aimer, de se faire accepter, de dire des choses qu'on n'arriverait pas à dire autrement qu'en passant par ce filtre de l'humour, mais le point de départ étant quand même pour moi un besoin de me faire remarquer, qui me pousse encore aujourd'hui, qui m'a poussé plus ou moins consciemment à en faire un métier. Voilà, puis j'étais délégué de classe, je prenais tout le temps la parole. Alors je sais pas, ça me permet de décrire le monde, ça me permet de mieux me faire comprendre, ça me permet de créer des relations avec les autres. Puis avec le temps, c'est devenu c'est une espèce d'ivresse. Alors après, faut faire attention, il m'arrive de m'écouter parler. Et voilà, c'est un écueil. Après, il ne faut pas parler tout seul, même si je le fais souvent sur scène. Mais voilà, oui, j'ai effectivement cet amour de la parole. Alors, ce qui est bien, puisqu'on vieillit, c'est qu'on affine, l'expérience aidant tous, on affine nos pratiques. Et moi, j'ai le plaisir de voir que plus je vieillis, plus ma langue peut-être s'aiguise et plus aussi je peux peut-être mettre de l'air entre les mots, voire ralentir. Alors, peut-être qu'un jour, j'arriverai à ne plus parler du tout. Et là, peut-être j'aurai atteint un ultime objectif.
Les longs formats sur Héliport.
Comme you masters of war. You that build all the guns, you that build the death planes, you that build the big bombs, you that hide behind walls, you that hide behind death. I just want you to know I can see through your mask. You that never done nothing but build to destroy. You play with our world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly.
Vous avez ralenti avec Chunky Charcoal. Pour les personnes qui vous suivent et pour celles qui vous découvrent aujourd'hui, savoir enfin qui nous buvons, c'était un spectacle qui durait entre 6 et 7 heures. J'ai l'impression qu'avec la musique de Nicolas Laforest, ça vous a posé vrai ?
Bah oui, parce que la musique de Nicolas, il faut notamment s'intéresser à ce que Nicolas fait en ce moment avec l'ancien chanteur de The X qui s'appelle GW Sock. Ils ont monté un groupe qui s'appelle The Hand, T-H-E-A-N-D. On peut sur internet écouter quelques-uns des morceaux de Nicolas et de Yoss, c'est le prénom, l'autre prénom du chanteur. Mais la musique de Nicolas, elle m'effrayait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je me demandais comment on pourrait faire cohabiter ma parole très adressée, très directe, et sa musique qui est beaucoup... Alors, je ne sais pas si elle est contemplative, mais elle est mélancolique, mais pas seulement. C'est pareil, la musique de Nicolas, on ne peut pas trop la réduire en un seul mot, mais ce qui est sûr, c'est que non seulement la musique de Nicolas, elle m'invitait au silence, mais elle m'invitait aussi effectivement à ralentir. Et puis surtout, ce qui était assez drôle dans les premières répétitions, c'est que mettons, je parle de tout et n'importe quoi, et si Nicolas se met à jouer à côté de moi, dès qu'il se met à jouer, ça va complètement changer le timbre de ma voix, l'intonation, ça va complètement changer la musique de ma voix. Et c'est-à-dire que j'ai été le premier surpris de voir à quel point sa musique me faisait avait un effet concret sur ma parole, en fait. Et je ne peux pas parler normalement. Je veux dire, dès que Nicolas se met à jouer, ma parole s'en trouve complètement transformée. Hier sur scène, c'est marrant parce qu'on a changé, il a changé une toute petite... On a une liste au début de spectacle, j'égrène une longue liste de ce qu'on peut perdre. Moi, j'aime bien faire des listes et je m'amuse presque à aller à l'exhaustivité de tout ce qu'on peut perdre, sa bague, ses clés, son couteau, ses cheveux, ses dents, son doudou, la vie bien sûr, un enfant, les os, etc. On peut s'amuser à en lister 200, c'est ce que je fais d'ailleurs, et Nicolas m'accompagne et je l'accompagne d'une musique qu'il a un tout petit peu changé d'un soir sur l'autre, mais c'est vraiment la même grille harmonique, c'est juste qu'il la joue un tout petit peu différemment, c'est un peu moins mélancolique, un tout petit peu plus posé rythmiquement. Et du coup, ça a complètement changé ma façon de le dire, et du coup, ça change complètement ma façon d'entrer dans le spectacle. Et je pense même pour les personnes qui sont là, c'est plus facilement recevable pour eux. Et en fait, cette toute petite modification d'intention musicale a complètement changé ma façon de dire mon texte. Donc c'est fascinant. Et puis après, il y a la présence de Benoît qui lui prend des notes. Et en fait, quand on répétait, souvent, j'allais beaucoup trop vite. Et un jour, Benoît m'a dit, mais fais attention à moi. Alors quand on me dit fais attention à moi, je suis forcé de m'arrêter, de lever un peu les yeux, de me dire merde, en plus c'est mon ami, il me dit là tu m'as écrasé de mots, c'est comme si j'étais pas là, ou pire que ça, tu m'écrases, tu m'ensevelis, non seulement, enfin il m'a dit tu me fais du mal, donc ralentis parce que sinon tu me fais du mal. Et Benoît, il faut imaginer qu'il est derrière moi sur ce panneau et que lui c'est très physique parce qu'il court avec une craie à la main et moi je me rendais pas compte, j'étais parti dans mes je pensais que c'était super, moi, jusqu'à un moment, il m'a dit non, mais tu me fais du mal. Or, t'es mon ami, et tu peux pas me faire du mal, sinon on va vite arrêter de travailler ensemble. Donc, j'ai dû aussi freiner pour laisser le temps à Benoît de récupérer ses mots, qu'il les accueille, qu'il les recueille, et puis qu'il les transcrive sur ce panneau. Donc, ces deux présences-là m'ont évidemment invité à ralentir, à me taire, à laisser de la place. Mais il y a beaucoup de gens, pas beaucoup, mais vous voyez, ce bégaiement qui est toujours là à guetter. Il y a des gens qui me disent un peu sur le ton de l'ironie, ah, tu dois la fermer un petit peu et tout, mais c'est... Alors effectivement, mais c'est comme s'ils avaient l'impression que c'était un effort pour moi. Je veux dire, si j'ai accepté de travailler avec Benoît et Nicolas, c'est aussi parce que j'avais envie d'un peu de silence et de partager, donc c'est pas du tout un effort, c'est juste un véritable plaisir, ça me fait un bien fou. Et peut-être qu'au public qui me suit depuis quelques années, s'il y en a quelques-uns, aux personnes qui me suivent, ou en tout cas qui ont pu voir ces spectacles se succéder, bien sûr, je pense que ça saute aux yeux que... Voilà, que l'âge aidant et ces présences-là aidant, mais il y a un peu plus d'air qu'avant, c'est tant mieux.
J'ai des amis marins pêcheurs, j'ai des amis qui vont en mer. Quand je dors encore, je les entends et je les vois. Mon rêve adopte leur palourde quand ils passent sous ma fenêtre, avec leur panier sous le bras, sabots en route vers le port. Le bruit qu'ils font vient d'on ne sait quel fond des âges. Un bruit silencieux, très doux. Ils se rassemblent sans parler, et dans la barque du passeur, on dirait qu'ils partent très loin. Le soleil lèvera dans le brasier de l'est là-bas le voile noir de leur visage. Leur oreille est un peu rongée par le vent qui fait du dégât et le sel, sable de l'écume, dégâts moindres. Que celui-là de la parole, car le mal existe ici-bas, langue de vipère aux abois, mot recuit dans la casserole du diable en jupon. Pata, diable. ti. Ta 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 ta. Je pense à mes amis marins qui s'en vont dans le jour naissant. Sur l'océan, leur belle usine, leur gagne-pain. Car à vous, fruits de sardines, la mer est à boire. Voilà le grand filet. Filet tournant est l'appât que l'on sème au vent pour mieux vous griller en cuisine ou bien vous serez mis en boîte. C'est ainsi que nous finissons.
Tout à l'heure, vous disiez que vous avez conçu Chunky Charcoal donc avec vos deux partenaires parce qu'aussi ça vous faisait du bien. Et sur scène, vous répétez plusieurs fois pendant le spectacle trois mots. Apaisé, rassuré et soulagé. Pourquoi ?
Bah parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, moi, parce que la vie est inquiétante, parce que toutes ces pertes que j'évoque, et dont certaines sont inéluctables, provoquent des angoisses. Parce que Nicolas aussi a besoin qu'on le rassure, qu'on l'apaise et qu'on le soulage. Et Benoît aussi, évidemment. Et puis tous. Et puis parce que. Alors, c'est toujours pas un choix, mais parce que si je viens d'un monde de travailleurs sociaux et de personnes liées aux soins, et dans le soin, on rassure, on apaise et on soulage. Bien sûr, on soigne. Ma mère travaillait dans une école d'aides-soignantes, donc ce qu'elle a enseigné à ses élèves, c'est pas tant le soin, puisque les aides-soignants, je suis pas en train de dire que les aides-soignants n'œuvrent pas dans le soin, mais ce sont pas les infirmiers, ce sont pas des médecins, ce sont des gens qui sont énormément dans la relation aux patients, chaque jour, dans la toilette, dans le soin, dans l'accompagnement, dans la présence.
Et dans la bienveillance.
Et dans la bienveillance, bien sûr. Est-ce que ma mère a toujours mis au cœur de son métier, c'est ce que j'ai cru en comprendre quand j'étais adolescent et que je la voyais travailler ou que je l'écoutais me raconter son boulot, c'est que elle travaillait dans la relation, dans le relationnel. Alors pas la relation de la personne qui soigne à celle qui est soignée, mais bel et bien la relation entre ces deux personnes-là. Donc voilà, j'ai été bercé dans un monde lié aux soins, mais aussi aux soins, à l'attention aux autres.
Et l'art soigne ? L'art vous soigne ?
Moi, je parlerai jamais d'art-thérapie pour ce qu'on fait, mais en tout cas, oui, bien sûr que ça nous fait du bien, encore une fois, si on est restés ensemble tous les trois. Bien sûr qu'on savait qu'on restait ensemble dans le but de faire un spectacle, c'est notre métier. Moi, il n'est pas question que j'en change, pas tout de suite. Mais vraiment, c'était un espèce de réflexe animal ou enfantin de se dire « Ah, oh, on est trop bien ensemble, venez, on reste ensemble. » Après, je me suis rendu compte que par rapport à... Alors, je sais, ça fait deux fois que je dis, je sais pas, mais bon, à ce monde compliqué, complexe, voilà, qui semblerait l'être de plus en plus, auquel je ne comprends rien parce que j'ai pas fait de thèse ou de longues études d'histoire, ni d'histoire des religions, ni de philosophie, ni d'anthropologie. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, donc je me sens complètement démuni pour comprendre le monde. Et alors, je vois plein de spectacles, puisque c'est mon métier, de gens qui affirment des choses sur le monde, qui nous rappellent que le monde ne tourne pas rond, que les inégalités, le capitalisme. Alors évidemment, tout cela, je le sais. Mais quand je vois des gens qui s'époumonnent sur scène à crier ça à des gens dans les rangs, enfin, dans un public d'une scène nationale, même si c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais j'ai quand même l'impression qu'on prêche des convaincus. Moi, c'est pas l'endroit où je me sens utile. Il y a aussi des gens qui font des spectacles bouleversants, qui arrivent à mêler. Moi, c'est pas l'endroit où je me sens ni utile ni efficace. Et je me suis rendu compte avec Chunky Charcoal, mais c'est déjà le cas avec Savoir Enfin Qui Nous Buvons, que mais moi, il y a un endroit où je peux peut-être agir un peu, et c'est pas une intention, c'est j'observe que c'est ce qui se passe, c'est que mais je peux contribuer à rassurer un peu les gens, à les soulager. Je ne sais plus qui l'autre jour disait que l'art ne devait surtout pas soulager, et qu'au contraire, il doit maintenir les plaies vives pour que la population ne s'endorme pas. Moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, l'art peut avoir à voir avec le soulagement, avec quelque part avec le soin. Et quand je, parce qu'en plus dans Chunky Charcoal, il y a des gens qui repartent soulagés, mais qui sont quand même un peu plus inquiets qu'avant aussi, parce qu'on évoque des choses qui sont pas drôles. Donc, il s'agit pas pour moi de passer de la pommade ou de faire oublier que le monde va mal. Mais c'est pas moi d'un point de vue, c'est pas dans le militantisme moi que je me sens malheureusement. D'ailleurs, j'en culpabilise énormément, mais c'est pas là que je me sens utile. Donc, ces trois mots rassurer, apaiser, soulager, c'est d'abord apprendre pour moi, pour nous, pour Benoît, Nicolas et moi, et puis aussi par rebond peut-être pour les personnes qui assistent à cette espèce de messe sans Dieu et s'y repartent avec en ayant senti cela. Ben pour moi, pour le coup, j'ai pas complètement perdu ma soirée. Et mon métier, ou en tout cas ma manière de le faire, a peut-être, contrairement à ce que je crois souvent, un rien d'utilité.
L'île en format, sur les bords.
Thank you.
Vous êtes à Chambéry, donc dans le cadre du Festival Utopiste. On rappelle donc le Festival Utopiste qui est porté par l'espace Malraux à Chambéry à l'initiative de Mathurin Bolz, qui est artiste circassien, concepteur de spectacles et qui est à la tête de la compagnie Les Mains, Les Pieds et la Tête aussi. Est-ce que vous, vous avez des utopies? Une utopie?
Oui, bien sûr. Enfin, je sais pas, personne ne peut vivre sans utopie. Après, est-ce qu'elles sont conscientes? Moi, j'ai mon utopie personnelle, c'est de pas faire trop de mal aux autres et d'atteindre une espèce de forme de bonheur et de rendre heureux les gens qui sont proches de moi. C'est ça mon utopie. Après, si je reviens à mon métier, parfois j'aimerais étendre un peu mon auditoire. Je viens des arts de la rue où parfois on est contraint d'aller vite et on ne peut pas trop rentrer dans le vif du sujet, où on n'a pas toujours des écrins qui nous permettent de développer en douceur des histoires délicates. Pas toujours, mais c'est quand même une des caractéristiques de l'art dans l'espace public. Après, ce qui est quand même vraiment important dans le théâtre de rue, par exemple, c'est qu'on y touche un public d'une grande mixité. Et alors, je ne prétends pas que dans les scènes nationales, j'ai déjà évoqué cette question-là tout à l'heure, il n'y a que des gens d'à peu près la même condition, d'à peu près la même catégorie socio-professionnelle. Mais même si j'aime pas les statistiques, en tout cas, moi, de manière organique et à force de jouer dans les théâtres, je vois bien quand même que tout le peuple ne s'y retrouve pas, ne s'y trouve pas. Et prendre la parole dans l'espace public, c'est quand même une manière de toucher un bien plus... Je faisais la rue au centre-ville de Toulouse il y a 10 ans, et je voyais à quel point l'auditoire était mixte, mais vraiment mixte. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Donc voilà, par rapport à l'utopie, j'en ai pas vraiment au niveau artistique, mais j'aimerais bien reprendre la parole dans la rue pour... Et si mon utopie, ce serait quand même que mon métier, le mien, ou ma façon de faire mon métier, ait une utilité. Et ça, c'est quelque chose après quoi je cours.
The sun is gliding past the sky, followed by the moon. Throughout my body goes the cold of the frozen frame, and nothing's gonna change. The sun no more, and the moon no more, which both are slowly going by. For neither of them brings the fire, neither of them brings the fire, neither of them brings the fire through which I would arise. Neither of them.
Est-ce que vous aimez la musique, Sébastien Barrier?
Pas du tout, je déteste... Non, bien sûr, j'adore la musique. Enfin, oui, j'adore la musique, évidemment.
Qu'est-ce qu'il y a dans vos oreilles en ce moment?
Dans mes oreilles personnelles, quand j'écoute de la musique, en ce moment, il y a A Band of Burriers, qui est un groupe anglais, une espèce de dépressif anglais qui joue une musique et chante des chansons très mélancoliques et qui me bouleversent. Il y a ça ces jours-ci.
Claque musicale.
C'était Bruce Springsteen. Non, c'était Renaud avant.
Ah vous?
Non, c'était ma première. Donc oui, c'était Renaud. Non, mais Renaud, c'est un peu désuet, ça peut paraître extrêmement ringard et ça l'est. Mais je sais pas comment mes parents nous ont mis un disque de Renaud entre les mains quand mon frère et moi avions entre 10 et 12 ans. Pour moi, c'était la découverte qu'on pouvait raconter des histoires. C'est ma première prise de conscience qu'on pouvait raconter des histoires. Et Renaud n'est pas pour rien dans ce que je suis devenu. Ça me fait un peu chier de l'admettre, mais c'est pourtant vrai. Renaud n'est pas du tout pour rien dans ce que je suis devenu, en tout cas dans mon métier aujourd'hui.
Est-ce que vous aimez le silence?
Oui, j'aime le silence comme quelque chose qui me fascine et dont j'ai un peu peur. Donc oui, moi, comme tout ce que j'aime, ça me fait un peu peur. Mais j'aime le silence, oui. C'est quelque chose avec... Je vais devoir composer avec le silence de plus en plus, je le sais, donc j'y viens tout doucement, mais ça me terrorise, vraiment, vraiment. J'ai du mal. Quand je rentre de tournée, je pose ma valise dans mon salon Et là, il y a un silence, et celui-là, je l'aime pas beaucoup, par exemple.
Justement, après des centaines de dates avec Savoir Enfin, qui nous buvons, et quelques 600, c'est un chiffre, mais peut-être beaucoup plus, autres dates aussi pour Ronan Tablantec, est-ce que c'est compliqué d'arrêter un spectacle pour vous ?
Bah, Tablantec, ça a été un peu compliqué parce que Tablantec, c'était un personnage. Maintenant, quand je prends la parole, que ce soit dans Chunky Charcoal ou Savoir Enfin qui nous buvons, je ne me pose même plus la question du personnage parce que c'est moi qui parle, c'est moi qui m'adresse aux gens, ce qui n'interdit pas de sortir un peu de son corps, de se mettre dans des états seconds. Bien sûr que je ne me comporte pas de manière complètement ordinaire sur scène, mais c'est moi. Tablantec, c'était un personnage. Donc, et bien que j'ai passé 10 ans à faire exister ce personnage en précisant à chaque prise de parole qu'il n'existait pas, mais que c'est moi qui lui avais donné vie, quand il a fallu que je m'en débarrasse, ça a été un peu compliqué. Surtout que je n'ai pas décidé d'arrêter tel jour. En fait, j'ai décidé d'arrêter ce spectacle alors que j'avais encore promis de le jouer. J'avais encore vendu, en fait. Et du coup, j'ai arrêté en tournée. C'est-à-dire que j'arrivais dans les endroits où je leur disais, écoutez, si vous voulez bien, je ne vais pas mettre le costume, je vais faire autre chose. Alors certains ont eu la bienveillance et la compréhension. Ils m'ont dit, bah, vas-y, Sébastien, fais ta mutation. C'est aussi pour ça qu'on est là. S'il faut que tu mutes, tu te débarrasses de cette vieille peau qui t'encombre maintenant, bah, fais-le. On en est ravis que ça arrive chez nous. Puis d'autres m'ont dit, bah non, nous on a invité Tablantec, sur le programme c'est marqué Tablantec, il faut que ce soit Tablantec qui soit présenté demain dans le festival. Donc ça a été très compliqué. Et puis c'est dur parce que concrètement, c'est arrêter un spectacle pour faire quoi ? Moi, il y a des gens qui arrêtent des spectacles qui ont prévu déjà une suite. Moi, j'avais pas du tout prévu la suite. Donc arrêter un spectacle, c'est d'abord faire le deuil d'une histoire. Et puis c'est éventuellement, dans mon cas, c'était se retrouver le bec dans l'eau, même au sens pragmatique de l'argent, des revenus, voilà, comment continuer à vivre. Bon, maintenant c'est fait, mais l'arrêt de Tablantec, c'est fait sur un an ou deux. Ça. J'ai plein d'histoires dont je me souviens maintenant liées à cette tentative de me défaire de ce personnage qui se raccrochait à moi comme s'il ne voulait pas me quitter. Et puis les gens me disaient, mais oui, Tablantec, on l'adorait, il va nous manquer et tout. J'ai dit, mais il n'existe pas. C'est pour ça que dans Chunky Charcoal, je prétends qu'il est mort dans l'accident de parapente pour qu'enfin on me foute la paix. Mais sur Savoir Enfin qui nous buvons, il y a un moment je vais arrêter parce que ça dure, comme vous l'avez dit, quelques heures et que je vieillis, je suis fatigué, je peux pas. Puis j'ai pas envie de jouer ce spectacle encore 10 ans parce que ça aurait pas de sens, parce que je suis déjà passé à un autre, même si ces deux spectacles cohabitent plutôt bien, que l'un apporte des choses à l'autre et vice versa. Ces deux histoires, bien sûr, sont poreuses, mais après il y a aussi cet écueil quand on arrête un spectacle, on fait une dernière et du coup c'est bizarre de fixer une date de dernière. En même temps, il faut savoir arrêter. Alors, ce qui est drôle, c'est que l'autre jour, je me suis dit que j'allais arrêter Savoir Enfin qui nous buvons alors que je faisais une des pauses qui émaillent le spectacle, alors que je jouais à Brest et je faisais une pause tout seul, je fumais une cigarette, j'étais très content de cette soirée là et je me suis dit, tiens, je vais arrêter. Et je suis content que l'idée m'ait traversé un soir où j'étais pas en train de souffrir. Je veux dire que souvent, enfin, j'aurais pu me dire d'arrêter un soir où j'étais au bout du rouleau, épuisé, à pu y arriver, ce qui m'arrive encore régulièrement quand je joue quand même. Et là, c'était un soir de grande jubilation et je me suis dit, ah, je vais arrêter. Et je crois aussi que le fait que le livre existe rend possible d'envisager d'arrêter, c'est-à-dire qu'il restera quelque chose dans ce livre-là. Et puis, donc j'ai décidé d'arrêter. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le jeu, dire j'arrête, ben, je vais en refaire une petite. Vous voyez, Johnny est encore en train de jouer à ça. Et, bon, ce n'est pas les mêmes échéances au niveau des âges, mais je pense qu'il faut être clair avec ça. Et après, moi, j'aurais fait une dernière, pour le coup, mais qui durerait 24 heures. Moi, je viens du Mans, et au Mans, on compte tout en 24 heures. Et j'aurais fait une dernière qui serait effectivement une dernière qui serait datée précisément, etc., mais qui serait une dernière augmentée, amplifiée de la présence de tous les vignerons. Et on traverserait une nuit et une journée ensemble, donc faire un espèce de rituel de dernière. C'est ça que je voudrais faire.
Le rituel, vous aimez ça ?
Ben oui, ce mot j'aime beaucoup, par exemple, rituel. Rituel, c'est très beau. Mais peut-être j'en rajoute un peu parce que j'ai toujours aimé ce mot, l'idée que j'aurais même du mal à définir ce qu'est un rituel. Pour moi, c'est un moment chargé d'une symbolique forte qui n'a pas d'utilité pragmatique et qui n'est pas palpable. Je sais pas comment le dire. C'est un moment qu'on décide, qu'on invente, qui est plein de magie, qui je sais pas, c'est ça le rituel. J'adore ce mot, c'est vrai que c'est un mot qui ressemble. Enfin, peut-être qu'un jour j'aille voir la véritable définition, parce que je suis pas sûr de la connaître ni de la maîtriser.
C'est peut-être pas grave.
Peut-être c'est pas grave.
Dans Chunky Charcoal, il y a cette phrase énigmatique qui, moi, me plaît beaucoup. Nos addictions sont des planètes. Alors, vous l'expliquez sur scène en nous expliquant qu'en fait, vous comparez, enfin, Alain compare aux différentes planètes du système solaire, donc nos addictions, la Lune pour l'alcool, le tabac pour Mercure, la MDMA pour Mars, les amphétamines pour Saturne, Neptune, les acides, jusqu'à la morphine sur Pluton, si vous étiez une drogue.
Ouais, je sais pas, parce qu'il faudrait que je puisse mesurer ce que je fais aux autres, quoi. Mais ce serait sans doute l'alcool, tellement j'ai la capacité de les saouler. Sans doute l'alcool, ouais.
Merci beaucoup, merci. Sébastien Barrier, d'avoir accepté mon invitation. Chers auditeurs, vous retrouverez toutes les infos de toutes les choses dont on a parlé sur le site internet de Radio Hellebore, y compris le podcast de cette émission, sur le www.radio-hellebore.com. Merci beaucoup d'être à l'écoute de La Fréquence Sensible. On se dit à bientôt. Au revoir.
Au revoir.